semaine, Claire Maillot rencontre Gérard Fromanger. Ce soir, la pensée en couleur.
Bonsoir Gérard Fromanger.
Bonsoir mademoiselle.
On vous décrit volontiers comme un intellectuel. Est-ce que ça vous embarrasse, ça vous flatte ou ça vous semble juste?
Ça, il faut demander aux gens qu'ils le disent. Moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Et puis en plus, alors on dit tellement de mal des intellectuels, le plus souvent, que ça m'honore, en quelque sorte. Les grands critiques d'art, les plus grands intellectuels de l'art, ce sont les artistes. Parce que pour dépasser tout ce qui a été fait, sortir de tout ce qui a été fait avant eux, il faut connaître. Il faut avoir une immense culture de l'histoire de l'art. Enfin, immense, il faut avoir la culture, l'histoire de l'art, et des idées, du mouvement des idées, etc. Et le petit Basquiat, qui se drogue dans les rues et qui a beaucoup de mal à vivre, etc., il connaissait tout ça. Il avait été à l'école, il avait beaucoup aimé les peintres, il avait culture par son père déjà. Ah oui, on ne croit pas comme ça, mais c'était la réflexion de Poussin. Je fais de la pensée silencieuse. Oui, je fais de la pensée silencieuse, quelque chose comme ça, sa phrase, c'était le grand Poussin. Ah, c'est comme ça. Donc le mot intellectuel, il y a aussi intelligentsia ou bobo, ça va avec tout ça. Intellectuel, intelligentsia, oui. Il y a souvent beaucoup de mépris, sauf dans le milieu de l'art. Mais je ne sais pas pourquoi on dit ça d'ailleurs. Moi, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous disais au début, il faut demander aux gens qui le disent. Je ne sais pas. Parce que, je connais des choses que parfois j'arrive à bien placer. Voilà, disons ça. Mais j'en connais pas beaucoup. Alors, l'autre qui disait, oui, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Peut-être. En tout cas, je connais des choses sur ce qui me touche. Sur ce qui me touche vraiment, j'ai une mémoire. Mais je n'ai pas fait de grandes études.
Non, vous êtes autodidacte.
Je ne suis pas. Hein,
vous êtes autodidacte, on peut dire ça?
Intellectuellement plutôt, oui. Picturalement, non, puisque j'étais dans les académies. J'ai quand même fait la préparation, j'étais reçu aux Beaux-Arts. Je ne suis pas resté, les cours du soir. Non, je ne peux pas dire que je suis autodidacte. Du Buffet était autodidacte. Enfin, il le dit beaucoup, en tout cas.
Mais cette réputation, elle provient aussi de l'attrait assez exceptionnel qu'a exercé votre peinture sur les intellectuels.
Parce que
vous avez fréquenté Deleuze, je le disais tout au début de la semaine, mais Deleuze, Guattari, Foucault, à votre avis, qu'est-ce qu'ils venaient chercher dans votre peinture?
D'abord, c'est une époque. C'est un ensemble, tout ça. C'est pas que je suis spécialement intelligent et que ces grandes intelligences ont eu envie de parler avec moi. Non, mais c'est vrai. C'est une époque. C'est l'époque juste avant, pendant et après mai 68. C'était tout à coup un melting pot extraordinaire de toutes les disciplines. Il n'y avait plus, pendant un certain nombre de petites années, de barrières, de murs, d'enceintes autour des disciplines. Et ça a recommencé, les murs. On voit rarement les médecins parler aux philosophes, parler aux peintres, d'une université à l'autre, d'une école à l'autre. Oui, certains sont amis, copains, comme ça, mais non. Tandis que dans l'ambiance 68arde, il y a eu un tel enthousiasme commun, un tel amour commun de la vie et des autres, pour faire vite, que on avait un socle commun, voilà, qui était l'amour des autres et de la vie. Et donc, il n'y avait plus ces barrières. On se parlait facilement d'un grand homme à un petit jeune, ou l'inverse. C'était normal, il n'y avait pas de distance. On était emportés dans le même mouvement extravagant, amoureux de la vie, qui fait que... Alors, pour ceux qui n'y ont pas participé, ils disent « Oh, il était ami avec Deleuze, avec Foucault, machin. » Oui, mais comme tout le monde, comme beaucoup d'autres gens, qui les ont connus, rencontrés, parlés avec, etc. Alors en plus, je suis persuadé de ça, on est amis pour de bonnes raisons. C'est-à-dire, évidemment, parce qu'ils écrivent, parce qu'ils pensent, et puis moi, parce que je peins. C'est pas, oh, salut, t'as un joli sourire, tu me plais bien, on va passer une soirée ensemble, tiens, viens dîner à la maison, c'est sympa. Non. Pourquoi pas, mais non. C'est les vrais amis, c'est des gens pour qui on a tout à coup une admiration, un goût particulier, une attirance, une séduction pour ce qu'ils font.
Vous les lisiez ? Vous parliez de ce qu'ils écrivaient avec eux ?
Bah oui. Ah oui, ils parlaient volontiers. Et puis l'anti-Oedipe, ça vient de mai 68. Alors, mai 68 vient aussi des mots et des choses, de tout ça. De le truc sur la folie, tous les bouquins de Foucault qui avaient... le déstructuralisme plutôt, etc. Tous ces gens ont été les premiers stupéfaits d'être embarqués dans un mai 68 qu'ils n'avaient pas prévu, mais dont leur travail était une sorte d'approche quand même. Et nous, peintres, les jeunes peintres de cette époque, de cette génération, on était préparés à ça. La preuve, c'est que tout de suite, on a organisé de faire ces affiches. En collectif, on avait l'habitude déjà, depuis 64, 5, 6, 7. Et de plus en plus collectif, de plus en plus des choses ensemble. Et puis politisées, avec des choix, etc. Alors,
vous dites que les intellectuels, eux, finalement, connaissaient mal la peinture.
Ah ben, ils continuent. Oui. Non.
Vous leur avez fait aimer ? Vous leur avez parlé de votre peinture ?
Bah bien sûr, comme on était sur le même pied. Oui, parce que moi je n'avais pas alors peut-être d'autres avaient, mais moi j'avais pas l'espèce d'admiration lointaine et respectueuse du grand intellectuel. Donc quand la femme de Gilles Deleuze, Fanny, m'a dit vous voulez bien venir dîner à la maison ce soir ? C'était normal de dire oui, mais je savais pas très bien qui était Gilles Deleuze. Oui, j'avais lu, mais pour moi, c'était pas un immense réputation de grand philosophe comme aujourd'hui. Il était parmi plein d'autres, etc. Alors, il avait une bande de gens qui l'adoraient, qui l'aimaient. Il y avait déjà comme un mythe autour de lui, mais de sympathie, de chaleur humaine, pas cette espèce prophète laïque, comme c'est devenu. C'est plus facile. Et puis surtout, il aimait beaucoup ce que je faisais. Si sa femme a dit venir, c'est parce qu'il aime beaucoup ce que vous faites. Il aimerait beaucoup vous connaître, ça lui fera plaisir. Ah bon ? L'amitié, c'est aussi du donnant-donnant sur ce qu'on fait. Voilà. Comme disait l'autre, on devient ce qu'on fait. Faire et en faisant se faire, c'est oui, mais c'est juste ça. C'est simple. On a tout à coup une attirance, une envie de connaître. On a un phénomène de séduction avec quelqu'un qui a fait quelque chose qui vous... Par exemple, être ami avec Giacometti, c'était pour moi, c'était vraiment... Lui, c'était un maître. Mais la manière dont je l'ai rencontré, c'était dans la pissotière du musée d'art moderne, parce que c'est là qu'on avait mis mon tableau qu'il avait envie de pisser. C'est quand même extravagant. Mais c'est des rencontres simples. De la vie par hasard. Au fond, j'étais au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Voilà.
Mais si on prend l'exemple de Deleuze, au fond, il a écrit sur deux peintres. Il y a eu Bacon et il y a eu vous. Donc c'est qu'il y avait quelque chose dans votre peinture.
Il aurait pas dû écrire
parlait.
Sur Bacon, oui. Ce qui est quand même un petit peintre anglais. Oui, ça c'est vrai. Enfin bon, oui. Il a eu le bonheur et l'intelligence d'écrire sur moi. Oui.
Ouais. On parlait hier de cette toile, le prince de Hombourg. Et derrière chaque toile, c'est ce que dit aussi Régis Debray concernant votre peinture, derrière chaque image, il y a une idée. Est-ce que c'est pas ça qui a, d'une certaine manière, aimanté ces intellectuels ? C'est comme si, dans votre peinture, vous arriviez à traduire, par ce geste-là, peut-être leurs idées ou une idée. C'était très fort.
Peut-être, oui. Mais surtout, à l'époque, c'était nouveau. C'est ça, et le nouveau étonne toujours, stupéfie. Et c'est tellement ancré, tout le monde aimait l'abstraction. On devait aimer l'abstraction, c'était comme ça. Alors déjà, faire une image, je vous jure, c'est vrai, c'était scandaleux. Comment ? Mais c'est pas de la peinture, voilà. C'est toujours la même phrase. Mon fils en fait autant. C'est nul, c'est pas de la peinture. Ah, c'est voilà. Et les intellectuels, les philosophes, les écrivains, etc., en général, c'est très difficile de repérer une peinture ou une école nouvelle. C'est très difficile. Il faut vraiment être un critique d'art qui connaît bien l'histoire, la génération, plein d'ateliers, qui a discuté des nuits et des nuits, des années avec les peintres, avec les jeunes, tout ça. Les intellectuels, ils font autre chose, ils ont une opinion, ils ont un goût, tout à coup, ils disent « Oh tiens, ça me plaît !» Mais ils n'ont pas. Eux, ils ont la culture des philosophes. Oh, ils ont tout lu, ils sont des intellectuels. Voilà. Ils ont étudié, lu, mémorisé des tas de choses, comme nous, avec la peinture, ou comme les critiques d'art. Je ne connais pas de grands intellectuels qui connaissaient bien la peinture. Ils avaient des goûts, comme tout le monde. Je préfère Pollock à Andy Warhol, je dis n'importe quoi. Mais ils ne savent pas bien distinguer, voir comment ça se fait, ça se construit, tout ça. Par exemple, Deleuze, il vient à l'atelier, il me dit, pourquoi il y a du rouge là ? Alors, et il démonte mon tableau. Alors je lui dis, parce qu'il y a un vert, etc. Ah non, puis alors pourquoi ? À force de pourquoi, il met mon tableau en pièces comme un moteur de voiture. Il ouvre le capot et il met les boulons, les pistons, etc. par terre. Puis après, il me dit, oui, mais pour te dire à quel point ils savent pas. Après, il dit, je sais pas le remonter. Il dit, je l'ai démonté, mais je suis pas garagiste, je suis pas peintre, je suis pas ingénieur chez Renault. Donc, j'ai les pièces, je peux comprendre des tas de choses, mais pour le remonter, je sais pas comment faire. Toi, tu le sais. Et ça, pour moi, c'est magique, c'est de la magie. C'est de la prestidigitation. Et c'est ça la différence. Parce qu'effectivement, moi, je l'ai monté, cette histoire-là. J'en ai fait une machine désirante, comme il dit. Tu vois, alors, il donnait comme exemple, au lieu des peintres, les animaux, par exemple. Alors, c'est intéressant. Alors, on peut démonter le mouvement du renard. On peut démonter le mouvement du zèbre, ou de la girafe, ou du lion, ou du lapin, ou de la fourmi. On peut démonter le mouvement intellectuellement, mais on ne peut jamais le refaire. C'est comme le tableau. Il n'a rien à voir. Le mouvement du lion n'a rien à voir avec le mouvement de l'éléphant. Rien. Pourtant, c'est du mouvement. On va le démonter avec les photos de Nadar, ou je ne sais qui, de Muybridge, ou tout ça. Voilà. Mais c'est mystérieux. C'est mystérieux. Alors, chez les artistes, c'est pareil. Les artistes importants ou intéressants ou fascinants, ils ont quelque chose, parmi les artistes naturellement, que personne d'autre n'a. C'est spécial. Tu prends 10 cm d'un tableau de Basquiat ou d'un trait qu'il a fait, tu le reconnais tout de suite. 5 cm de n'importe quel trait, tout de suite, si tu connais l'art évidemment, tu dis tiens, ça c'est un trait de Basquiat.
Alors 5 cm d'une toile de Fromanger.
Ah ben ça j'en sais rien, c'est à vous de dire, moi je ne sais pas. Oui. Sur certaines choses, oui. On dit, tiens, ça, c'est... Voilà, les silhouettes, les lignes qui traversent un réseau de lumière et d'ombre dans un visage. Oui. On dira, tiens, ça, c'est un tableau de Gérard. Oui. Voilà, donc, l'intellectuel... Alors, bon, pourquoi est-ce qu'on va dire oui, je suis Iki Fromanger, c'est un intellectuel.
Alors, j'aimerais vous soumettre une autre hypothèse.
Oui.
Que vous seriez peut-être, notamment pour les critiques d'art ces dernières années, est revenue l'idée que vous étiez peut-être un peintre conceptuel. C'est notamment l'hypothèse qui avait été mise pour la grande rétrospective au Centre Pompidou. C'était l'accent qui était mis vraiment sur l'idée que votre peinture, il y avait du concept. Est-ce que vous le comprenez ? Est-ce que vous comprenez cette lecture-là ? Parce qu'on vous a souvent rangé du côté de la figuration narrative. Figuration narrative qui a signé son acte de naissance, d'une certaine manière, en assassinant Duchamp. Donc comment vous vous situez par rapport à ces deux
mouvements ? Moi, j'assassine pas. D'abord, j'assassine pas, moi. Moi, je ne suis pas un assassin. C'était mes copains, hein. Arroyo, Recalcati, Ayo. C'était des garçons extraordinaires. D'une sympathie, d'une séduction. Ils étaient intelligents. Mais moi, je n'assassine pas. Mais j'aime, je construis, je fais, etc. Mais j'assassine. Bon. La figuration narrative, c'est très bien. Enfin, c'est pas le cubisme, hein. C'est pas la fin du monde. C'est intéressant, c'est une nouvelle manière de figuration par rapport à qui se confrontait à l'art abstrait du début des années 60. Mais les choses avancent et alors. Par exemple, l'art conceptuel, c'est très intéressant. C'est pas mon histoire, mais c'est intéressant. Le body art, le make art, l'op art, etc. Tout ça, c'est intéressant. Les environnements, les performances, les vidéos, les relations, l'art relation. Tout ça, c'est intéressant. Et alors, peintre, on prend à tout ça. On prend partout, d'ailleurs. On pique, on vole. Alors oui, je suis pas assassin, mais je suis voleur. Ça, sûrement. Alors, oui. On prend. Dès qu'il y a une petite idée, un petit mouvement, une petite chose qui apparaît neuf pour comprendre le monde, pour aimer le monde, parce qu'on comprend, puis après on passe à autre chose, donc on comprend rien à la fin. Mais enfin, à un moment donné, on a le sentiment très fort de comprendre quelque chose, de rentrer dans quelque chose de fort. Il se dit, ah ben oui, je suis en vie, c'est ça. Ah ben alors voilà, c'est, puis après, bon, faut passer à autre chose. Donc, intellectuel, oui, parce que je réfléchis sur tous ces mouvements, et je ne reste pas à la figuration narrative, oui, c'est vrai. Et donc, il y a un peu de toutes les autres écoles dans mon art. Mon art, voilà. Alors, quand ils disent que c'est... Alors, il y en a un autre, Bernard Cesson, qui avait fait un texte sur mon travail, il avait dit « Penser, peindre, penser, peindre, penser, peindre ». Olivier Zam aussi avait dit ça. C'est vrai. J'ai peut-être tort, d'ailleurs.
Vous réfléchissez beaucoup avant de peindre et vous dites souvent que votre atelier est comme une table d'opération. En tout cas, il faut que tout soit organisé de manière très clinique, que vous ne soyez pas embarrassé.
Même les objets sont des objets d'hôpital. Mais beaucoup de peintres aussi, ils ont les tables roulantes des hôpitaux, tout ça. C'est très bien fait, c'est commode. Et oui. C'est précis, la peinture, c'est précis. Ça a l'air comme ça, bordélique, des tubes machin mal pressés, des palettes dégueulasses, des pinceaux partout. Ben non, tout ça est très précis, pour tous, même si ça a l'air bordélique. Et donc, comme une salle d'op, parce que tu peux pas faire une opération, c'est grave une opération, tu te rends compte, c'est gens qui ont le droit de t'ouvrir ton corps, c'est pas rien. C'est chirurgien, c'est quand même extravagant. Il c'est fou, quoi. Il a le droit de t'ouvrir la peau, c'est fou. Donc, il faut que tout soit extrêmement propre, précis, préparé, nettoyé, etc. Bistouri, ciseaux, coton, alcool, machin, tout ça, tata, les pinces 13, la 12, la 15, etc. Tout ça est précis pour justement être très attentif à ce qu'ils font, qui est très dangereux, très grave. Ben, c'est pareil, la peinture, c'est pareil. Le tableau, c'est comme un corps, c'est grave. Mais oui, c'est comme une peau qu'on déchire. Il y en a même un qui l'a fait. Zou! Fontana. Zou! Il a fait le concours de bistouri.
Mais j'aimerais quand même qu'on parle de votre rapport à la couleur. Parce que peut-être c'est là qu'on peut trouver la dimension presque abstraite de votre peinture. Oui. Parce que vous dites souvent que la couleur pour vous est un outil abstrait. J'aimerais que vous nous expliquiez ça.
Oh, c'est compliqué, moi.
Mais c'est la clé pour comprendre.
C'est compliqué parce que je ne suis pas un intellectuel. Oui. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, je fais une série de tableaux qui s'appelle Le peintre et le modèle. Que personne n'y arrive. Ça fait 40 ans que j'ai fait cette série. Tout le monde dit le peintre et son modèle. Mais, alors, quand je dis, mais non, c'est pas ça. Mais enfin, quand même, votre série, Le peintre et son modèle. Sinon, lisez-le. Mais même en le lisant, ils disent, ben oui, le peintre est emballé. C'est extraordinaire à quel point on sort ce qu'on connaît déjà. Il n'y a rien à faire. Le plus souvent. C'est intéressant, d'ailleurs, c'est intéressant. Bref, le peintre et le modèle, ce sont des images très figuratives, très, très précises. Mais le titre des tableaux, c'est « Vert Véronèse », « Bleu de Cobalt », « Violet d'Égypte », « Violet de Bayeux », etc. etc. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui domine tout, qui est haute, qui emporte l'image ailleurs, dans un ailleurs qui fait effectivement, alors, qui intellectualise, qui repense le réel autrement. Si je dis boulevard de Grenelle, numéro 3, ce qui est montré, bon. Par contre, si je dis vers Véronèse, ah bon, alors ça, le spectateur va réfléchir autrement. Moi-même, je donne une aura à l'image qui l'emporte dans ce qui est l'art, dans ce qui est la peinture, dans ce qui est autre chose qu'une image simple. Il n'y a qu'à faire des photos si on veut faire des images simples.
Concernant la couleur, j'aime beaucoup deux expressions que vous employez. Vous dites à la fois « je suis un démocrate de la couleur » et dans le même temps, vous pouvez dire « la couleur, c'est moi ». C'est-à-dire que la couleur, il y a un rapport de pouvoir.
Mais il y a des rapports de pouvoir partout. Partout. Vous voyez, par exemple, la peinture... n'est pas un pouvoir. L'art n'est pas un pouvoir. Il y avait une exposition assez intéressante de Bernard-Henri Lévy. Pourtant, c'est pas son truc, mais elle était assez maligne, son expo. Oui. À la Fondation Marx, justement. Je sais plus comment ça s'appelait, mais il faisait un rapport entre la philosophie, le pouvoir politique et l'art. Alors, les différentes périodes où l'un arrivait au pouvoir et pas l'autre, etc. Et il avait fait un choix de je sais pas, 150 œuvres, etc. C'était assez intéressant. C'était intéressant, l'idée était intéressante. Alors, mais je veux dire que les syndicats, la télévision, l'opinion publique, le gouvernement a du pouvoir, un pouvoir réel. La peinture, elle participe au monde, à son aventure, à l'époque, etc. À la colère de l'époque, au bonheur de l'époque, ça oui. Mais elle a des batailles, abstraits contre figuratifs, environnement contre body art, op art contre art géométrique, etc. Art lyrique contre géométrique, environnement contre art relation, etc. Mais c'est des batailles, je dis, souvent c'est des batailles pour rire. C'est des batailles à l'intérieur d'un monde de plaisir, de philosophie, de d'art. Par contre, on fait un peu de la guérilla à l'intérieur de nous-mêmes pour arriver à faire passer un sentiment très fort, une émotion très forte, une aura très forte. Une attente très forte, un mystère très fort.
Votre combat à vous, ça a été de libérer la couleur de ça, toute forme de symbolique.
Oui, c'est ça, c'est ça. Il y avait à une époque un grand peintre américain qui s'appelle Jasper Johns.
Que vous aimez beaucoup.
Ah, j'aime beaucoup, oui. Oui, alors à une époque, il avait fait des tableaux avec, par exemple, il prenait les trois couleurs primaires, jaune, rouge, bleu. Et alors il écrivait en jaune le mot bleu, en bleu le mot rouge, en rouge le mot jaune. Ah mais quand c'est l'idée de ceci n'est pas une pipe, ou ceci, c'est un tableau, c'est pas une pipe, c'est un tableau. C'est la représentation d'une pipe. Ah, il dit, c'est pas du jaune, mais c'est le mot jaune, etc. C'était intelligent.
C'est perturbant.
Très perturbant. Après, on s'habitue, tout va bien, mais... Donc, perturbant, intelligent et qui...
Vous pensez que c'est un véritable...
Par exemple, un autre exemple, attends. À un moment donné, Picasso dit « Quand j'ai plus de rouge, je prends du bleu. » C'est formidable. On va dire « Bon, alors quoi ? Alors, les couleurs n'ont pas une importance. Le rouge, c'est du rouge, je prends du bleu. Ah, » Il dit « Oui, mais non. » Il dit « J'ai pas le temps d'aller m'acheter du rouge. » J'ai une affaire en cours. si j'arrête, j'arrête l'affaire. C'est plus important que tout, l'affaire en cours. Donc je prends du bleu pour continuer l'affaire. Voilà, ça explique la mécanique de Picasso ou de la couleur, ou de la libération de la couleur, de se libérer des codes précis, bas de gamme, ras des pâquerettes de par exemple la couleur. Enfin, je ne sais pas si ça répond, mais...
Si, mais vous pensez qu'on peut défaire comme ça aussi simplement les perceptions que peuvent avoir les regardeurs d'un tableau ?
Oui, absolument.
Vous y pensez quand vous peignez ? Au regardeur ? Au spectateur ?
Oui, à moi, je pense à moi, c'est moi le regardeur. Ah oui, c'est les autres, ils ne sont pas là. Le premier regardeur, c'est moi. Quand Marcel Duchamp dit « c'est le regardeur qui fait le tableau », ben oui, mais c'est lui le regardeur. C'est moi le premier regardeur. Si ça ne me plaît pas, ben je le déchire ou je le change, je le transforme, etc. Oui.
Vous êtes sévère avec vos toiles ?
Oui, je suis absolu. Oui. Oui, au moins là. Au moins là, je suis entier. C'était la phrase, je ne sais plus qui. Il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse, c'est les accents de vérité. Voilà. L'artiste est là pour exprimer. Alors, Bruce Nauman avait dit des vérités mystiques. Bon, ça. Bon, enfin, je peux comprendre, parce que c'est un très grand artiste, lui aussi. Mais enfin, je peux comprendre. Mais c'est pas tellement mon truc, mais. Mystérieuse, ça oui, mystérieuse, magique, oui, sûrement. Voilà. Il faut être à la hauteur. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'être à la hauteur. Quand tu dis ce que je suis exigeant, c'est-à-dire, oui, pour être à la hauteur de ça. Là, ça, là, là, ça. C'est quand même inouï. Ce qui se passe en ce moment, c'est inouï. Alors évidemment, je parle, vous m'écoutez, vous faites votre métier. Elle installe le micro, elle tourne ses boutons, tout ça, oui. Mais il y a autre chose, comme la couleur qui domine tout. Et on ne sait pas ce que c'est. C'est notre présence au monde, c'est notre... Je ne sais pas, c'est mystérieux. C'est à la fois, c'est fragile, c'est magnifique, c'est extravagant. C'est extravagant. Alors, comment reproduire cette extravagance dans un tableau ? C'est ce truc incroyable, ces jambes croisées, ces trucs, tous les quatre, d'ailleurs. Ça. Puis vous m'écoutez, puis moi, je vous regarde, un beau sourire, plein de choses me passent. Mais c'est au-delà de tous ces détails, il y a une situation qui est aussi puissante, ou plus exactement, je ferai un tableau où j'espère être aussi puissant que le mystère qui nous entoure.
Merci Gérard Fromanger. À demain.
'Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Claire Maillot avec Gérard Fromanger. À voix nue, réalisation Raphaël Zénine, prise de son Olivia Branger, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.